Chapitre 12. Maintenant, mes amis, il va falloir quitter le pays, les vieilles baraques du bois des chênes et toutes les braves gens que nous connaissons. Le lendemain, vers 10 heures, nous étions déjà dans la vallée du Groftal, de l'autre côté de la montagne sous les rochers. C'est là que tous les volontaires du canton devaient se réunir avant d'aller à Bitche et puis à Wissenburg, et puis plus loin. Les premiers villages arrivés devaient attendre les autres. Nous étions partis de bonne heure, à cause de la chaleur qu'on sentait déjà venir au petit jour. Marguerite, Chauvel, Maître Jean, mon père et toute la ville, hommes, femmes, enfants, nous avaient suivis jusqu'à cette première halte. Nous campions au revers du chemin sablonneux, dans l'ombre des hêtres, nos fusils en faisceau et la grande vallée devant nous, à perte de vue, avec sa rivière bordée de saules et ses forêts parsemées de rochers dans les airs. Combien de fois depuis 50 ans je me suis arrêté dans ce chemin, à regarder et à rêver aux anciens temps. Je revoyais tout et je me disais « C'est ici qu'on s'est embrassé pour la dernière fois. C'est là que ce pauvre Jacques ou ce malheureux Jean-Claude, le fusil sur l'épaule, s'est retourné pour serrer la main de son père en criant. « À l'année prochaine !» C'est par ce sentier que sont arrivés ceux de Saint-Jean-des-Choux et par cet autre, ceux de Mittelbrunn. Leur tambour bourdonnait depuis longtemps sous bois et tout à coup, ils sortirent de ce bouquet de sapins les grands chapeaux au bout de leurs baïonnettes. Alors les cris de « Vive la nation !» remplirent la vallée. Ah, que ces temps sont loin de nous. Et pourtant, les arbres, les rochers, les broussailles vivent encore. Le lierre grimpe toujours aux rochers. Mais où sont ceux qui criaient, qui s'embrassaient et promettaient de revenir? Où sont-ils? Quand on songe à tous les camarades restés couchés le long de la Moselle, de la Meuse, du Rhin et dans les broussailles de l'Argonne, il faut reconnaître que le Seigneur a veillé sur nous. Enfin, si je vous dis cela, c'est pour vous peindre ces rassemblements du mois de juillet 1792. Partout ailleurs, on faisait les mêmes choses. Partout, les volontaires s'attendaient avant de partir. Marguerite, assise près de moi dans les bruyères sur le bord du chemin, découvrait un petit panier de pain, de viande et de vin qu'elle avait apporté, car on ne pouvait rien avoir au Groftal. L'auberge du vieux Becker n'existait pas encore, et toutes les femmes de la ville, sachant qu'il fallait attendre, avaient apporté leurs provisions. Chauvel, mon père, Maître Jean et 3 ou 4 officiers municipaux stationnaient dans le chemin au-dessous, à l'ombre des chênes, et nous regardaient de loin. Ils avaient compris que nous avions beaucoup de choses à nous dire et que nous serions contents d'être seuls. Marguerite me recommandait d'écrire chaque fois que je pourrais. Elle me regardait avec amour. Elle ne pleurait pas, comme beaucoup d'autres. Elle était ferme et savait bien que, dans des moments pareils, il ne faut pas décourager ceux qui partent. « Pendant que tu seras loin, » disait-elle, avec douceur, « je penserai toujours à toi. Et tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de ton père. C'est aussi le mien, je l'aime. Rien ne lui manquera. » Moi, debout devant elle, je l'écoutais, dans l'admiration, et je prenais courage. Jamais l'espérance de revenir ne m'a quitté, même au milieu des plus grands périls. Quand beaucoup d'autres se laissaient abattre par la pluie, la neige, le froid, la faim, la misère, je me cramponnais. Je voulais revoir Marguerite. Son amour m'a soutenu. À côté de nous, contre une roche, était assise la famille du père Gouin, l'entrepreneur des fourrages. Ce vieux, la mère et les sœurs se lamentaient. Le père disait que ses deux fils auraient dû lui demander son consentement, qu'ils n'avaient pas besoin de partir tous les deux, qu'à son âge, il ne pouvait pas continuer ses affaires tout seul. Enfin, c'était triste, et ses garçons devaient perdre confiance. Heureusement, ailleurs, des vieux tenaient d'autres discours à la jeunesse. Ils ne parlaient que de patrie et de liberté. Mais c'est à l'arrivée de Monsieur le curé Christophe que les cris de « Vive la nation !» roulèrent dans les échos de Falberg et de la bande noire. On aurait cru que les vieilles montagnes se mettaient à vivre et qu'elles criaient avec nous d'une cime à l'autre en levant les grands bras de chêne et de sapin, tout en frémissant. Monsieur le curé Christophe nous amenait les volontaires de Lutzelbourg. Il venait aussi bénir nos drapeaux. Je le vis de bien loin et je le reconnus sous les roches de Bichelberg, comme il descendait le chemin tournant avec mon frère Étienne qu'il tenait par la main. Je n'avais pas eu le temps d'aller embrasser ce pauvre enfant. Il venait donc et trottait en boitant comme il pouvait. Alors, pendant le roulement des cris, je descendis jusque sur le pont de la Zinsel. Il pouvait être 11 heures. La chaleur était si grande dans cette vallée, à l'air si lourd, que toute la rivière brillait de petits poissons à la chasse des mouches qui tombaient par milliers de la rive. Et les truites filaient dans l'ombre des oserais comme des éclairs. Sur le pont, en dos d'âne, monsieur le curé Christophe, la figure couverte de sueur, me tendit ses grosses mains en disant « Je suis content de toi, Michel. Je sais ton bonheur, et je sais aussi que tu le mérites. » Et puis Étienne me sauta dans les bras, et nous remontâmes ensemble du côté de la maison forestière où se réunissait le conseil général de la commune. Étienne courut embrasser Marguerite et mon père. Chauvel et maître Jean, avec les maires des villages, vinrent serrer la main de monsieur le curé. Tous les volontaires des environs se trouvaient alors réunis à 500 ou 600. Il ne manquait plus que ceux de la haute montagne, et l'on venait à peine de se rassembler que leurs tambours résonnaient au loin et qu'on criait « Les voilà !» Ceux-là venaient les derniers. Ils avaient eu 5 lieues à faire de plus que nous. C'étaient tous des bûcherons, des charbonniers, des schlitteurs, des flotteurs, des gaillards trapus qui s'étaient déjà choisis pour chef le sabotier Claude Hulin, le même qui s'est si terriblement défendu en 1814 contre les Alliés. Le colporteur Mac Dives, avec son grand feutre, ses pantalons de toile, ses pieds nus, son bâton de houx et sa petite blouse serrée au rein avec sa cravate, était parmi eux. Et d'une demi-lieue, on l'entendait déjà parler, crier, appeler les traînards, imiter le chant du coucou et du pivert. On le voyait faire tourbillonner sa longue trique, et pour couper au cours dans la grande prairie, traverser la rivière avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Les autres le suivirent. C'était le meilleur rafraîchissement qu'on pouvait prendre. Enfin, après l'arrivée de Hulin et de ses compagnons, Jean Rat et les deux fils légers engagés dans les tambours commencèrent le roulement et l'on vit que le grand moment approchait. Ceux qui vont de Falsbourg à la Petite Pierre connaissent ce gros bloc de roches à gauche du chemin, au milieu de la prairie. On ne comprend pas comment il peut être là dans les prés. Cette masse a bien sûr roulé d'en haut, mais quand? Personne ne peut le savoir, c'était peut-être avant les hommes. Eh bien, c'est sur cette roche, entourée de tous les volontaires et des autres gens accourus en foule de la ville et des villages, au milieu d'un grand silence, que monsieur le curé Christophe, après avoir rappelé nos devoirs de soldats chrétiens, bénit nos drapeaux. Chaque village avait le sien. On les réunit en faisceau. Et lui, les bras étendus, les bénit tous. Il les bénit en latin à la manière de l'Église. Mais aussitôt que Chauvel monta sur cette même roche, comme officier municipal et président du club, il fit avancer le drapeau du bataillon, un grand drapeau tricolore, avec le bonnet de paysan en laine rouge au bout, et les mains étendues, il le bénit à la manière constitutionnelle en disant « Vieux bonnet du paysan de France, si longtemps penché vers la terre, bonnet que nos malheureux pères ont trempé de leur sueur, bonnet du cerf sur lequel le seigneur et les évêques ont posé le pied pendant 1000 ans, redresse-toi, marche au milieu des batailles, que les enfants et les petits-enfants de ceux qui t'ont porté dans la servitude te portent à travers les baïonnettes de nos ennemis. Qu'ils te tiennent haut, qu'ils ne te laissent jamais pencher, et que tu deviennes l'épouvante de ceux qui veulent rattacher le peuple à la glèbe. Que ta vue les fasse frémir, et que les siècles apprennent que de l'abaissement le plus grand, par la fermeté, le courage, les vertus de tes défenseurs, tu es arrivé à la plus haute gloire. » Après cela, Chauvel, tout pâle, se tournant vers ceux qui l'écoutaient, en frémissant s'écria « Volontaires, enfants du peuple, vous jurez de défendre ce drapeau jusqu'à la mort, ce drapeau qui vous représente la patrie et la liberté, ce drapeau qui vous rappelle les souffrances de vos anciens. Vous le jurez ? Répondez-moi !» Et tous ensemble, nous répondîmes comme le tonnerre. « Nous le jurons !»«
C'est bien !»
dit-il alors. « Au nom de la patrie, j'accepte votre serment. Elle se repose sur vous et vous bénit tous. » Il dit ces choses avec force, mais simplement. Sa voix s'étendait au loin et chacun pouvait l'entendre. Après cela, Chauvel descendit de la roche, et presque aussitôt, un grand nombre de gens qui n'étaient pas les proches parents des volontaires se mirent en route pour leur village, car un gros nuage gris s'avançait de la petite pierre, et par la chaleur qu'il faisait, on pensait qu'une averse allait venir. Chauvel fit battre le rappel, et comme nous étions formés en cercle autour de lui, de Maître Jean et des maires, il nous dit que les élections de nos officiers et sous-officiers, décrétées par l'Assemblée législative, se feraient par nous-mêmes à notre arrivée au camp. Mais qu'en attendant, il était bon de nous nommer un chef pour maintenir l'ordre dans la marche, la distribution des logements, l'heure des départs et le reste. Il nous conseillait donc d'en choisir un, et cela se fit tout de suite. Les montagnards avaient choisi le sabotier Hulin. Il criait
« Hulin !»
Tout le monde répéta le même nom, et Hulin fut notre chef jusqu'au camp de Rixheim. Il n'avait pas grand-chose à faire que de nous presser et, quand nous arrivions quelque part, d'aller à la mairie demander des logements et des vivres. Mais à cette heure, il est temps que je vous parle de la séparation. Vers midi, quand le ciel devenait toujours plus sombre et qu'on entendait ce grand frémissement des bois, où toutes les feuilles tremblent sans le moindre coup de vent, lorsqu'un orage s'approche, Hulin, qui se trouvait parmi les maires, descendit dans le chemin et fit battre le rappel. En ce moment, chacun comprit que c'était le départ. Les maires, Chauvel, monsieur le curé Christophe, mon père, tout le monde, descendaient dans le chemin au pied de la côte. Moi, je regardais Marguerite un instant, comme pour la conserver dans mon cœur durant ces 3 ans où je ne la verrai plus. Elle me regardait aussi, les yeux troubles. Je lui tenais la main et je sentais qu'elle voulait me retenir. « Allons, lui dis-je, embrassons-nous. » Et je l'embrassai. Elle était toute pâle et ne disait rien. Je pris mon sac dans les bruyères et je le bouclai. Chauvel, mon père, Étienne et Maître Jean étaient arrivés. Nous nous embrassâmes. J'avais donné mes 80 livres de prime au père pour payer la pension d'Étienne à Lutzelbourg. Et comme j'embrassais Maître Jean, je sentis qu'il glissait quelque chose dans la poche de ma veste. C'était 2 louis qui m'ont rendu service plus tard. Il était temps de partir. Sans cela, le courage m'aurait manqué. Je pris mon fusil en disant « Adieu, adieu tous, adieu !» Mais au même instant, Marguerite me cria « Michel !» d'une voix qui me traversa le cœur. Je revins et comme elle pleurait, je lui dis « Allons Marguerite, du courage, c'est la patrie qui veut ça !» Je n'avais plus une goutte de sang. Tout autour de nous, des gens pleuraient. Les femmes sont terribles. Marguerite alors se raffermit. Elle me dit en me serrant « Défends-toi bien !» Et je descendis vite, sans plus rien dire aux autres. Je ne regardais même plus de leur côté. Presque tous les volontaires étaient en bas dans le chemin. Ceux qui restaient encore arrivèrent et l'on partit par 3, par 4 comme on était. De grosses gouttes d'eau tombaient déjà, on sentait cette bonne odeur de la pluie dans la poussière chaude. Et comme nous tournions le coude du chemin qui monta à la petite pierre, l'averse commença par un éclair. Puis, le plus fort de l'orage avait passé la montagne. Il était à Saverne, en Alsace, et cette grande pluie nous fit du bien. Le même jour, à 3 heures du soir, nous passâmes à la petite pierre, sans nous arrêter. Ce n'est qu'à 3 ou 4 lieues plus loin qu'on fit halte près des grandes verreries au milieu des bois. J'avais rêvé pendant toute la route. Je n'avais pas même regardé mes compagnons. Tant d'autres idées me passaient par la tête. Mais alors, sous une sorte de grande halle ouverte, où l'on nous avait allumé du feu, pendant que les gens nous apportaient du pain et de la bière, Marc Dives, assis près de moi, me posa la main sur l'épaule en me disant « C'est dur, Michel, de quitter le pays. » Et je le regardais. Je fus content de le reconnaître. Malgré cela, je ne lui répondis rien. Personne n'avait envie de causer. Et tout de suite, après avoir cassé sa croûte de pain et vidé sa cruche, on s'étendit à droite et à gauche, l'oreille sur le sac, entre les piliers de ce grand hangar. C'est un bonheur de la jeunesse, de pouvoir dormir, de pouvoir oublier un instant ses misères. Cela n'arrive plus aux vieillards. Mais le lendemain, de grand matin, Hulin criait déjà « En route, camarade, en route !» Et tout le monde se levait. On bouclait son sac. Dehors, il tombait une forte rosée. Les grosses gouttes clapotaient sur les tuiles. On regardait ce temps, et quelques anciens soldats qui se trouvaient parmi nous, avant de se passer la bretelle du fusil sur l'épaule, serraient leurs mouchoirs autour de la batterie. Nous allions partir lorsque sur notre droite déboucha tout à coup une longue file de volontaires à cheval du Bas-Rhin. C'étaient des drapeaux nationaux, comme on les appelait dans ce temps. Des fils de bons paysans, de brasseurs, de maîtres de poste, de bouchers, de fermiers, enfin des gens à leur aise, qui montaient leurs propres chevaux. Et sauf trois ou quatre anciens soldats qui portaient leurs vieux uniformes, ces Alsaciens avaient encore l'un son large tricorne et ses grosses bottes à clous luisants, l'autre son petit gilet rouge, sa veste courte, son bonnet à queue de renard et ses hautes guêtres de toile à boutons d'os. La seule chose qui les faisait reconnaître comme dragons, c'était le grand sabre à fourreau de cuir, grosse coquille et patin large de trois doigts qui ballottaient à leur ceinture et sonnaient contre leur étrier. On ne pouvait voir de plus beaux hommes ni de meilleurs cavaliers. Ils avaient tous l'air joyeux et décidés. En nous apercevant sous le hangar, leur commandant fit tirer le sabre et tous ensemble se mirent alors à chanter une chanson que personne de nous ne connaissait encore, mais que nous devions entendre bientôt sur les champs de bataille. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. » Quel chant dans un moment pareil! Il nous rendit presque fous. Les cris de « Vive la nation !» ne finissaient plus. Et comme ces Alsaciens défilaient devant les verreries, le maître en sortit avec sa femme et ses filles pour les prier de s'arrêter. Nous étions pressés autour d'eux. Nous les tenions par la bride, par la main, et nous crions. « Il faut fraterniser, braves Alsaciens! Il faut fraterniser! Descendez! Vive la nation !» Mais leur chef, un grand gaillard de 6 pieds, dit qu'ils avaient l'ordre d'arriver à Sarrebruck le soir même. Et ils repartirent en chantant. Jamais on ne se figurera notre enthousiasme après avoir entendu cette chanson. C'était comme le cri de la patrie en danger. Quand nous repartîmes de là, je puis le dire, chacun de nous avait un nouveau courage. Moi, je m'écriais dans mon âme. Maintenant, tout ira bien. Nous avons la chanson que Chauvel demandait pour remplacer la Carmagnole. Quelque chose de grand et de fort comme le peuple. Ce qui me revient encore, c'est le grand mouvement des hameaux et des villages au milieu de ces montagnes. Le tocsin bourdonnait de tous les côtés. À chaque embranchement de notre chemin, des files de volontaires, leurs petits paquets d'habits, dans un mouchoir au bout du bâton, poussaient en nous criant tout joyeux. « Vaincre ou mourir !» Nous leur répondions ensemble, et d'autres bandes plus loin, dans les chemins de traverse, s'en mêlaient aussitôt. Cela s'étendait quelquefois à une demi-lieue. Tout le pays était sur pied. Quand il s'agit de défendre les véritables intérêts du peuple, il sortirait, je crois, des hommes de la poussière. En arrivant à la petite ville de Bitche, nous trouvâmes ses rues, ses places et ses auberges tellement encombrées de monde qu'il fallut camper dehors au milieu des jardins et des prés avec une foule d'autres villages. Hulin entra seul faire sa déclaration à la municipalité et demander des vivres. Alors je regardais cette vieille ville à moitié française et à moitié allemande qui ressemble beaucoup à Saverne, et son fort au-dessus, où l'on monte par des sentiers et des poternes, qui s'enfilent jusqu'à 600 pieds dans le ciel. Là-haut, les canons vous regardent à 2 et 3 lieues dans la plaine. Je connaissais, sur les remparts, l'uniforme rouge des pauvres soldats de Châteauvieux. Ils avaient juré de mourir jusqu'au dernier, plutôt que de rendre la citadelle, et ces braves gens ont tenu parole pendant que leur bourreau, monsieur le marquis de Bouillé, montrait le chemin de la France aux Prussiens. On nous fit à Bitch notre première distribution, et nous repartîmes de là jusqu'au camp de Rixheim, entre Wissembourg et Landau. Il fallut marcher tout ce jour sans relâche au soleil, car nous avions dépassé les bois, et seulement de loin en loin, on trouvait un peu d'ombre le long des vergers. Bien d'autres détachements à pied et à cheval, à droite et à gauche, devant et derrière, suivaient la même direction. Les files de voitures qui conduisaient des vins et des munitions ne manquaient pas non plus. On ne voyait que cela. Mais quelle poussière ! Et qu'on aurait été content de recevoir une bonne averse comme la veille. Nous arrivâmes à Rixheim sur les 9 heures du soir, et nous trouvâmes le cantonnement dans la joie. Un premier engagement de cavalerie venait d'avoir lieu le matin. Nos dragons nationaux avaient culbuté les Ebenhussards et les dragons de Lubgowitz, conduits par des officiers émigrés, et qui voulaient couper un convoi de vivres en route pour Landau. Cette affaire avait été chaude. Custine commandait la charge. Mais dans le village de Rixheim, les gens parlaient surtout avec attendrissement d'un pauvre petit tambour du bataillon de chasseurs volontaires de Strasbourg qui le premier avait découvert les Ebenhussards au loin sur la route et s'était mis à battre la générale. Un Ebenhussard lui avait abattu la main droite en passant et le pauvre enfant n'avait pas cessé de battre de la main gauche. Il avait fallu l'écraser sous les pieds des chevaux. Voilà comment la guerre entrait chez nous. Mais à cette heure, j'ai besoin de reprendre haleine. Il faut aussi que j'aille voir 2 anciens camarades qui vivent encore dans la montagne et qui me rafraîchiront la mémoire. C'est pourquoi, mes amis, nous allons rester là quelque temps. Cette première guerre de la République vaut bien la peine qu'on y pense avant de la raconter. Et puis, tant d'autres grandes choses se sont passées dans le même temps qu'il faut mettre de l'ordre dans tout, ramasser ces vieux papiers et ne rien écrire qui ne soit reconnu juste et vrai par les honnêtes gens. Enfin, si Dieu me conserve la santé, cela viendra bientôt. Fin de la 2e partie.